VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Midi à Washington, 18h à Bujumbura, c'est au Burundi. L'opposition togolaise qui affirme avoir remporté l'élection présidentielle face au sortant Faure Gnassingbé, déclaré vainqueur, a indiqué aujourd'hui n'avoir intenté aucune action légale pour contester le scrutin qu'elle juge pourtant frauduleux. Félix Yepassis Zembrou.
Nous n'avons pas fait de recours. Nous considérons que la Cour constitutionnelle est inféodée au régime togolais, a déclaré à l'agence France-Presse Éric Dupuis, porte-parole du principal candidat de l'opposition Jean-Pierre Fabre. L'opposition avait jusqu'à jeudi minuit pour le faire. La Cour constitutionnelle étudie en ce moment le rapport de la Commission électorale nationale indépendante contenant les chiffres du vote et les éventuels contentieux électoraux. Une fois ce rapport validé, elle devrait proclamer d'ici quelques jours les résultats définitifs. Les résultats officiels provisoires donnent vainqueur avec 58,75% des suffrages le président sortant Faure Gnassingbé, dont la famille dirige le Togo depuis 48 ans, contre 34,95% à Jean-Pierre Fabre. Trois autres candidats d'opposition se présentaient, dont aucun n'a atteint 4%. Le camp Fabre a rejeté ces résultats, dénonçant un scrutin frauduleux. M. Fabre a dit mercredi se considérer comme le président élu du Togo. Aucun incident n'a depuis été signalé dans le pays. Les différentes missions d'observation électorale, ONU, Union africaine, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Concertation nationale de la société civile, ONG togolaise financée par l'Union européenne, jugent le scrutin libre et transparent et n'ont pas signalé de fraude.
Merci Félix. Au Niger, les habitants des îles du lac Tchad doivent s'exiler pour éviter de nouvelles attaques de Boko Haram. C'est ce que recommandent les autorités locales après l'assaut des islamistes armés samedi dernier qui a fait au moins 74 morts civils et militaires dans l'île de Karamga. Le Niger possède plusieurs îles sur le lac Tchad, vaste étendue d'eau située entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, souvent la cible de raids meurtriers des extrémistes nigériens. En ce jour du 1er mai au Niger, les travailleurs prient dans les lieux de culte au lieu de faire la fête pour marquer leur compassion aux familles des victimes de l'attaque de Boko Haram contre cette île. Sur décision des syndicats, le traditionnel défilé du 1er mai, fête du travail, a été tout simplement annulé. Au Mali, les combats entre la rébellion à dominante Touareg et l'armée mercredi à l'Éré près de la frontière mauritanienne ont fait près de 20 morts et une vingtaine de blessés. Annonce faite par le ministère malien de la Défense. 9 morts, 6 blessés et 6 rebelles capturés côté armée et 10 morts et 16 blessés du côté des rebelles. Selon l'AFP, c'est le plus lourd bilan depuis près d'un an dans des affrontements entre les deux camps. Le gouvernement et la rébellion s'accusent mutuellement de saboter les laborieux efforts de paix internationaux. Hier, les membres de la plateforme pro-gouvernementale Gassia ont reçu un accueil triomphal à leur retour à Menaka, près de la frontière du Niger. Ils y ont chassé les éléments du MNLA lundi et les ont poursuivis jusqu'en brousse.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a jugé offensant d'être accusé d'avoir étouffé les allégations d'abus sexuels sur des enfants par des soldats français en Centrafrique. Plusieurs ONG ont demandé aux Nations Unies de faire toute la lumière sur cette affaire en RCA que l'ONU est accusée d'avoir voulu étouffer après la suspension de l'un de ses cadres humanitaires. Anders Kompass, un haut responsable du Haut Commissariat aux droits de l'homme basé à Genève, avait en effet transmis aux autorités françaises au mépris des procédures de l'organisation un rapport intitulé « Abus sexuels sur des enfants par les forces armées internationales ». Monsieur Kompass avait transmis ce rapport en réaction à l'inaction de l'ONU. Il avait été suspendu le 17 avril et depuis fait l'objet d'une enquête des Nations Unies. Et sur place à Bangui, le barreau des avocats s'insurge contre la tentative de l'ONU et de la France d'étouffer l'affaire des viols sur des enfants impliquant des militaires français et étrangers, notamment tchadiens et équato-guinéens, engagés dans l'opération de maintien de la paix en RCA. Écoutons Maître Bruno Gbieba, il est membre du réseau des ONG des droits de l'homme en Centrafrique, au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Les Nations Unies ainsi que la France ont voulu cacher cette affaire. N'eût été la vigilance d'une ONG anglaise. Et lorsque vous suivez les réponses maladroites de certains responsables militaires français qui disent que non, ils n'ont pas voulu interférer dans la procédure. Mais non, il fallait d'abord informer l'opinion internationale que certaines brebis galeuses au sein de l'armée française ont commis des faits graves. On sait que l'armée française est une armée d'élite composés de bons éléments, mais il n'en demeure pas moins que ces brebis galeuses, il fallait dénoncer leur mauvais comportement. Mais nous n'avions pas compris pourquoi on a voulu cacher cette affaire. Et si cette ONG anglaise n'avait pas révélé, ben on ne serait pas informé. Vous voyez même qu'au niveau de la RCA, le parquet était étonné. Et c'est pour cette raison que nous déplorons ce mauvais comportement de certains responsables de l'armée française qui ont voulu cacher cette affaire, ainsi que certains de ceux des Nations Unies qui avaient aussi voulu ne pas que cette affaire-là voie le jour.
Maître Bruno Biegba, membre du réseau des ONG de droits de l'homme en Centrafrique. Au Burundi, fonctionnaires des administrations et entreprises publiques et salariés de quelques grandes sociétés privées ont défilé ce vendredi à Bujumbura à l'occasion du 1er mai, une cérémonie délocalisée et boycottée par les syndicats en raison des protestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le défilé traditionnellement organisé dans le centre de Bujumbura, c'est exceptionnellement déroulé en périphérie de la capitale sur le terrain de football de l'école technique secondaire de Kamenge sur lequel des tentes aux couleurs nationales du Burundi avaient été dressées. Des manifestations émaillées de heurts avec la police agitent depuis dimanche certains quartiers périphériques où les policiers ont bloqué les protestataires, les empêchant de converger vers le centre-ville. Les festivités du 1er mai ont été bien plus réduites que les autres années. Hier, dans des manifestations, un militaire a été tué et un civil blessé par un officier des services de renseignement à Bujumbura.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici, aux États-Unis, la police de Baltimore a remis à la procureure les conclusions de son enquête interne sur la mort de Freddie Gray, un jeune noir décédé en détention des suites de blessures aux vertèbres cervicales. Il reviendra donc à Marilyn Mosby, chargée du dossier, de décider d'une éventuelle mise en cause de 6 policiers. Ces policiers ont été suspendus dans cette affaire et la justice fédérale a ouvert une enquête pour déterminer si les faits impliquent d'éventuelles violations des droits civiques. Par ailleurs, le ministère américain de la Justice a annoncé ce vendredi un programme pilote de 20 millions de dollars destiné à équiper les policiers de mini-caméras individuelles après plusieurs bavures ayant entraîné la mort d'hommes noirs ces derniers mois. Au Yémen, selon l'agence Reuters, les avions de la coalition sunnite menée par l'Arabie Saoudite ont bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi un quartier résidentiel de la capitale, Sanaa, faisant une dizaine de morts parmi la population civile. Les avions de la coalition saoudienne ont également visé une base de l'armée de l'air proche de la capitale. Le bilan des victimes du séisme au Népal dépasse maintenant 6200 morts alors que les secouristes continuent de dégager des survivants dans des décombres près d'une semaine après la catastrophe. Les derniers rescapés à Katmandou, un adolescent de 15 ans et une femme d'une trentaine d'années. Le gouvernement népalais donne 1000 dollars de compensation à chaque famille des victimes, plus 300 dollars pour les frais d'enterrement. Et le 1er mai, fête du travail à travers le monde, c'est l'occasion de nombreux défilés dans plusieurs pays, en Indonésie et aux Philippines, où nombre d'employés gagnent moins de 2 dollars par jour. Des milliers de personnes ont manifesté en faveur d'augmentation de salaire et de la fin des contrats temporaires qui les privent des moindres avantages sociaux. Il est 18h08:32 à Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'heure de passer à la page des sports. Week-end décisif pour les compétitions africaines interclubs. Dans le cadre des huitièmes de finale retour en Ligue des Champions, l'US Sétif accueille le Raja de Casablanca. Les deux clubs s'étant séparés à l'aller sur le score de 2-2. Smouha affronte AC Léopard de Dolizy. 1-0 à l'aller pour Dolizy. À l'aller reçoit Maghreb Tétouan, victorieux 1-0 à l'aller. Le TP Mazembe reçoit le Stade Malien. Après le 2-2 de l'aller, l'Espérance de Tunis offre l'hospitalité à El Merreikh, vainqueur 1-0 à l'aller. L'AS Kaloum, qui n'a pas digéré sa défaite par 2-1 de l'aller, reçoit l'USM Alger. Le club sfaxien tentera, lui, sur sa pelouse, de préserver l'acquis du 1-0 de l'aller contre le Mouloudia. Même scénario pour El Hilal, vainqueur par 1-0 de Sangabalend à l'aller. Pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération, de beaux duels en perspective ici également. Le club africain et Amel Saad tenteront de se départager après leur nul 1-1 à l'aller. Même chose pour l'étoile sportive du Sahel qui reçoit Young African. Les pirates d'Orlando seront les hôtes du CF Mounana après le 2-2 de l'allée. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Bion à ce micro. On se retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau bulletin.
Soyez au cœur de l'info.